Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2h, le 10h midi avec vous, avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Ça va bien ce matin, vous aussi?
Je fête mon 40e jour de confinement.
40e 40 jour.
Jours, ça fait 40 jours que je suis chez moi.
Eh ben écoutez, vous sortez pas du tout.
Pas tant que ça, non, je sors pas du tout. Je fais très attention.
Bon, on va être avec José Garcia dans un instant. Alors pas du tout, on va pas du tout parler médias. C'est pas du tout un nouveau téléfilm. Au contraire, ça n'a rien à voir. Il est le parrain d'une opération très importante et très intéressante avec Aviation Sans Frontières. Il va nous en dire un petit peu plus. C'est évidemment en lien avec le Covid. Ça permet de transporter des soignants partout à travers la France. Voilà. Et puis à 10h30, on aura quelqu'un de l'UFC Que Choisir pour nous parler de cette étude sur la hausse des prix des fruits et des légumes, en particulier ce qui concerne le bio. Alors, il y a évidemment des explications, on va y revenir avec lui. Et puis on aura Christian Saint-Etienne qui est professeur d'économie et qui, avec lui, on va voir comment peut se passer la reprise, que va-t-il advenir de cette dette colossale et puis des enseignements sur cet état ventripotent et impuissant parfois. On va revenir sur les absurdités de ce système avec lui. Commençons avec les audiences. Hier, c'est la nouvelle série de TF1 qui est arrivée en tête, The Resident, nouvelle série médicale. C'est 700 000 de plus que la semaine dernière TF1 diffusait Grey's Anatomy. Il y avait donc 4 769 000 téléspectateurs devant la télévision. C'est un très bon score, me dit Rémi Pernelet.
Oui, ça peut être
médical. Et il y avait, pour le troisième épisode qui s'est terminé à 23h30, toujours plus de 4 millions de personnes devant la télévision. Top Chef a très bien fonctionné, 3 847 000 téléspectateurs, 14,3% du public. Et puis, réunion avec Laetitia Milo que nous avions hier, 3 310 000 téléspectateurs, 11,9% pour donc cette série réunion, 400 000 de moins que la semaine dernière,
c'est un petit peu moins
bien marché. On a Sylvie en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour Sylvie, ça va bien ce matin?
Là, je commence à trouver le confinement compliqué. Là, maintenant, ça commence à me peser, mais lourdement, ouais, j'avoue.
Pourquoi aujourd'hui, plus que les autres jours?
Parce qu'il fait moins beau, donc moi je m'échappais une heure, j'allais marcher, on était en campagne, donc c'était quand même commode, dans la mesure où je pouvais m'oxygéner, et là, de ce fait, ça fait deux jours qu'on a la pluie, et je suis quelqu'un qui a du mal à rester enfermé. Donc, jusqu'à présent, j'ai été extrêmement docile, et là, j'avoue que c'est en train de me ronger de l'intérieur, vraiment.
Bon, il reste plus tellement de jours, faut tenir bon. Vous avez qu'à faire un gâteau.
Je travaille 3 jours par semaine, j'ai réussi à reprendre mon activité 3 jours par semaine.
Vous faites quoi?
On est poissonnier avec mon époux, donc on travaille notre compte et voilà. Et heureusement que j'ai un petit peu d'activité qui reprend malgré la peur et la crainte. Ouais. On a repris quand même du travail, quoi.
Et il y a du poisson. Est-ce que les pêcheurs sortent? C'est une question.
Ils ressortent depuis jeudi dernier. Donc c'est pour ça qu'on a repris un peu notre activité parce que il faut savoir que nous on travaille avec la pêche côtière, la Bretagne. Donc il y a quand même moins de pêcheurs que des chaluts avec lesquels je ne travaille pas du tout, quoi.
C'était plus difficile pour des professions comme la vôtre que pour des maraîchers parce que vous achetez des caisses, enfin des stocks, et ce que m'a expliqué mon poissonnier qui expliquait effectivement que lui avait du mal à faire des livraisons à domicile parce que il va pas acheter je dis n'importe quoi 20 bars, il va lui en rester 18 sur les bras.
Et puis, il n'y avait pas de pêche du tout, de la pêche côtière.
Oui, c'est ça.
Totalement, quoi, tout à fait. Donc, après, il va y avoir un manque à gagner. Ça va être compliqué, on est à notre compte. Bon, c'est l'après-confinement qui fait très, très peur, en fait. Plus que le confinement lui-même, quoi, finalement.
On vous appellera et vous nous raconterez comment ça se passe.
J'avais une question, vous avez augmenté vos prix ou pas?
Non, pas du tout.
On va en parler tout à l'heure avec Valérie. Donc, vous arrivez à garder vos prix?
Oui, tout à fait. Justement, on avait retardé un petit peu l'ouverture parce qu'ayant peu de pêche, le prix était extrêmement élevé. Donc, de ce coup, on a décidé d'attendre 3 ou 4 jours de plus pour reprendre notre activité parce qu'on trouvait qu'il y avait de l'abus. Et effectivement, les prix ont été remis à la normale. Et les clients ont eu cette réflexion, justement, c'est de me dire, ah, mais vous avez gardé les mêmes prix. On apprécie énormément ce détail-là, quoi. Donc, on a fait partie des gens sérieux. Voilà, c'est ça.
Ouais, en sachant que vous êtes aussi tributaire des coûts de la criée,
tout à
quoi.
Fait. Enfin,
bon, c'est,
tout à fait.
Bon, voilà. Tout Moi, je pensais pas qu'on parlerait prix du poisson ce matin avec vous, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Je pense que ça intéresse aussi nos auditeurs. Alors, vous regardez aussi la télé de temps en temps. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier?
Alors, hier soir, c'est la catastrophe. J'ai regardé Camping Paradis.
Ah bon?
Ah oui, je ne pouvais plus. J'étais au bout. J'avais besoin de soleil. J'avais besoin. Mes amis me manquent. J'avoue, ce qui me manque le plus, c'est de manger entre amis, c'est de boire un bon verre de vin entre amis, d'avoir des conversations futiles et de rire ensemble. Et du coup, j'ai regardé ça et je me suis dit, en fait, j'ai envie de la chose la plus bête qui soit, aller camper, un truc que je déteste, aller dans un mobile, un truc que je ne suis pas. Et là, ça me manque, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. La futilité me manque.
Eh ben, écoutez, vous avez raison, il faut rire un peu, il faut se détendre. C'est pour ça que les films de l'après-midi marchent plutôt bien sur France 2, parce que c'est plutôt en général des films humoristiques. Hier, ça a un petit peu moins marché. 1 761 000 pour Neuilly ta mère, mais c'est vrai que vous avez raison, Camping Paradis, ça fait du bien, ça vide la tête, et puis on a besoin de ça pour se divertir. Merci Sylvie, bon courage à vous. Allez, le beau temps va revenir dans le Tarn-et-Garonne, j'en suis certaine. Je crois qu'on a Claudie en ligne avec nous également. Bonjour Claudie.
Oui, bonjour, c'est avec plaisir que je vous entends, parce que c'est vrai que j'ai délaissé moi la télé un petit peu pour la radio maintenant, et donc hier soir, j'ai pas regardé sur les premières chaînes, j'ai regardé la 24.
La 24,
France 24. C'était
France, non, vous avez regardé quoi sur la chaîne 24?
L'Australie en feu.
L'Australie en feu, donc c'était sur RMC Découverte, voilà.
Voilà, exactement. Voilà. Et je regarde beaucoup cette chaîne parce qu'ils sont très intéressants. Et donc,
oui, il y a beaucoup de documentaires.
Oh oui, et moi je suis vraiment intéressée par les documentaires, etc. Même si ça donne pas le moral, hein, franchement. Parce que c'est pas les gens tellement qui ont souffert de ce feu, c'est les animaux. Et vous auriez vu les petits là qui pleurent, les petits pandas et tout ça, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont moitié brûlés. Moi, c'est horrible. C'est horrible, quoi. Ça fait penser. Je regarde la nature. Voyez, je suis dans le Lot-et-Garonne, vous le savez, à Nérac. Et j'ai jamais vu la nature aussi fleurie, aussi belle. C'est incroyable, quoi. Je reviens pas. Il y a les roses partout. Bon, les gens redeviennent.
Non, c'est vrai que le printemps est là. Ouais.
Ah oui, il est là, tout à fait. Et c'est, moi, j'ai jamais vu, franchement, une telle floraison en cette saison.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Claudie. Rémi Pernelet, qui est à l'écoute, nous dit que sur TFX, donc c'était Camping Paradis, il y avait quand même 705 000 personnes, Sylvie.
Ah oui,
comme vous, ça a plutôt pas mal marché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se divertir, à signaler que Arte a plutôt très bien fonctionné également avec un film avec Juliette Binoche, L'heure d'été. Et puis hier soir, Quotidien, 1 773 000 téléspectateurs qui recevaient le sociologue Gérald Bronner, pardon, c'était très intéressant sur les fake news. Et Vanessa Paradis. Alors, Vanessa Paradis.
Ah, ça fait polémique, Valérie. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'interview.
Oui, oui.
Elle était assise par terre comme une pauvresse, dont, avec un lit tout crade. C'était sale chez elle. C'était très, très bizarre le lieu qu'elle a choisi.
Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, on avait l'impression qu'elle était dans une vieille chambre d'hôtel.
J'ai failli envoyer un chèque de 10 euros. J'ai failli te faire un don pour qu'elle s'achète, je sais pas, un lit, une nouvelle pièce.
C'était effectivement très étrange, très étrange. Elle était assise par terre avec un lit, une tête de lit. Ouais, bon, c'était bizarre. Voilà.
C'était bizarre.
Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, Michel Onfray était l'invité de l'émission de Éric Zemmour et Nolo sur Paris Première. Il n'a pu que constater la faillite de l'État et de l'Europe face au coronavirus.
Si vous regardez les informations tous les midis ou tous les soirs, par exemple à la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Un, la faillite de l'État français. Et deux, le fait que les choses qui sont remarquables et notables aujourd'hui, c'est ce que fait le peuple, le petit peuple. C'est-à-dire les gens qui sont capables de tailler dans des rideaux quasiment des masques et qui envoient ça aux hôpitaux. Ce sont les restaurateurs ou les producteurs de fruits et légumes qui se débrouillent pour faire à manger et apporter tout ça aux infirmières, etc. C'est-à-dire on a tous les inconvénients de l'État et aucun avantage. Ce que l'État devrait faire, c'est-à-dire protéger les citoyens, ce sont les citoyens qui le font eux-mêmes.
C'est le nouveau remède miracle, Valérie, la nicotine. Mais attention, le professeur William Lovettstein prévient le président de SOS Addiction de ne pas confondre la nicotine et la cigarette.
Ça m'inquiète forcément parce qu'il y a toujours une confusion terrible entre le tabac fumé, c'est-à-dire la combustion qui tue, elle, c'est ça qui tue, et la nicotine qui, pour vous le dire comme ça, dans de la dépendance, est plutôt une bonne molécule. Là, attention, 200 morts par jour depuis des décennies dues au tabac fumé.
Ouais. Alors vous le savez, moi, je me suis interrogé de savoir pourquoi on partageait cette information qui a fait que des gens se sont précipités dans les pharmacies pour aller acheter des patchs de nicotine. C'est complètement absurde. Voilà, pardon.
Vous le savez, certains drives des McDo ont réouvert. Alors résultat, parfois plus de 3 heures de queue pour aller chercher ces nuggets, Valérie. Le 20h de France 2 est allé à la rencontre de ces clients qui attendent leur McDo dans leur voiture.
Je sais que je vais bien manger après 2 mois d'attente.
Ça fait du bien, ça a manqué. Hein. Le goût, ça a manqué.
C'est juste pour se faire plaisir, mais je ferai pas la queue comme ça tous les jours. J'ai rien à faire, je m'ennuie et j'avais envie de me faire plaisir. Je me suis dit qu'il y aurait pas grand monde aujourd'hui.
On a attendu 40 minutes là, très exactement.
Et à côté de ça, les restaurants ne peuvent pas ouvrir. Que voulez-vous ? C'est le monde actuel, ma chère Valérie. Hier, beaucoup d'entreprises ont demandé, sur la base du volontariat, que certains employés baissent leur salaire. Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, s'est dit méfiant, vous savez, sur la notion du volontariat.
Je vous dis la vérité. Franchement, moi, ce que je veux pas aussi, c'est que ça devienne un espèce de chantage. C'est-à-dire, tu baisses ton salaire, sinon, je risquerais de ne pas te garder, par la suite. Il ne faut pas non plus que ça tourne à un espèce de chantage comme ça, et c'est de ça que j'ai peur. Moi, je vous dis la vérité, c'est de ça que j'ai peur. C'est qu'on dit base du volontariat, voilà, mais le mec qui a pas été volontaire et qui dit non, moi, je peux pas parce que forcément, je peux pas faire d'efforts, et il y a plein de gens qui pourront pas faire d'efforts, que le mec, il se dise pas, 2 mois après, on m'a foutu dehors.
Vous savez que le confinement, ça rend créatif, Valérie, comme le comédien Jonathan Cohen, qui, alors j'en suis convaincu, a trouvé le tube de l'été. C'est ce qui fait le buzz en ce moment sur la toile, avec ce titre incroyable qui s'appelle Confiné.
Confiné, j'adore, tout refaire, vous êtes fou. Le mode, j'adore, dans les pangolins, 1 mètre de distance au Grand Prix, s'il vous plaît. Confiné,
alors c'est un vrai carton, hein. Faut vraiment regarder la vidéo, c'est un vrai carton. Ouais. Et une autre création formidable, celui des goguettes, Clémence au piano, ouais. Valentin au chant, qui ont repris la chanson de Jacques Brel, Vesoul. C'est un petit chef-d'œuvre.
J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures, pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite.
Ouais. Faut aller voir toute la vidéo.
C'est très très drôle. J'ai reçu au moins 10 fois hier de différentes personnes, donc ça circule beaucoup sur la toile. Bonjour José Garcia.
Bonjour Valérie, comment allez-vous?
Mais très bien, et vous?
Oui, ça va. Confiné comme tout le
monde. Ça va. Confiné. Vous êtes confiné en région parisienne ou ailleurs?
Oui, absolument. Oui. Moi, je suis soutien de famille, donc il faut que je m'occupe un peu de tout le monde.
voilà. Vous étiez où quand il y a eu le confinement? Vous étiez en train de tourner ou pas?
Non, heureusement, je venais de finir de tourner et voilà. J'avais fini de travailler en fait.
Vous avez fini de travailler. Alors ce matin, on est ravis de vous avoir pour parler de tout autre chose que de votre profession. On va parler d'une opération avec Aviation Sans Frontières. Vous êtes l'un des parents, parrain, c'est soutien de famille, voilà, parrain avec Michel Drucker et la chanteuse Angoune. Vous êtes mobilisés pour permettre aux soignants de rejoindre rapidement un hôpital partout en France. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi vous êtes le parrain de cette association.
Alors, je ne suis pas parrain, moi je ne suis qu'ambassadeur avec Michel Drucker. Les vrais parrains sont Thomas Pesquet et Angoune. Parce qu'on est pilote avec Michel et qu'en fait, dès que Jean-Luc Gessler nous a appelé, on a tout de suite répondu présent parce que vous savez que c'est très difficile pour les aides-soignants. On s'est rendu compte qu'il y avait la difficulté de se déplacer. Souvent, les aides-soignants ou les personnes certains médecins qui doivent se déplacer ont des problèmes, surtout en transversal, c'est-à-dire du nord au sud, ça va assez bien, mais d'est en ouest, c'est plus compliqué. Et donc, ils ont mis des pilotes et des avions à leur disposition pour pouvoir transporter aussi du petit matériel médical et des aides-soignants qui doivent aller d'un hôpital à un autre pour désengorger, évidemment, les hôpitaux qui sont...
pour aider des soignants qui sont dans des régions qui sont moins touchées et pour qu'ils puissent aller aider ceux qui sont débordés.
Voilà. En fait, il y a presque 500 aérodromes en France et c'est vrai que le maillage est absolument énorme et il y a presque un aéroport à 40 minutes de cette grande ville. Donc, si vous voulez, c'est plus facile de pouvoir transporter du personnel médical. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens quelquefois qui étaient à Hendaye, qui devaient monter à Bordeaux et qui mettaient presque 4 à 5 heures pour pouvoir se rendre là-bas. Et donc, tous ces pilotes sont à la disposition de tous ces soignants pour les emmener dans les hôpitaux et le plus vite possible.
Donc l'idée, c'est de faire savoir, c'est de faire connaître cette opération. S'il y a des soignants qui nous écoutent et qui ont envie.
Surtout pour les soignants, oui.
Oui, c'est ça.
Oui, absolument.
Donc aujourd'hui, alors déjà peut-être dire que vous êtes pilote, vous pilotez.
Oui.
On l'ignorait, ça. C'est une facette cachée.
Je ne suis pas en train de porter. Je ne suis pas en train de piloter pour les gens là. C'est vraiment les pilotes
professionnels. J'ai bien compris. Mais c'est ce qui explique que vous soyez ambassadeur, comme Michel Drucker, qui lui aussi, on le sait un peu plus, pilote. Vous soyez impliqué dans cette opération là. Oui, Gilles avait une question.
Je voulais déjà indiquer que les soignants pouvaient s'inscrire sur un site internet et pouvaient évidemment poser un peu leur candidature pour aller dans l'association et sur ces vols. Et puis également, l'association, on peut faire des dons à l'association. On va mettre tout ça sur les sites internet
Oui, parce que tout ça, c'est une énorme logistique. Oui, vous disiez le plus important.
Le plus important, c'est que souvent, on se rend compte que comme les aides-soignants et toutes les personnes, personnel médical est quand même la tête sous l'eau, ils ne sont pas au courant de cette possibilité. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que évidemment, c'est pas une grande balade pour tout le monde. On prend pas l'avion comme ça. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe. Il faut aller sur le site d'Aviation Sans Frontières ou sur asfcovid.wingly.io. Donc, ça, vous aurez ça sur le site de Sud Radio, pour que les personnels médicaux puissent s'inscrire et pouvoir voyager assez rapidement. Et de l'autre côté, il y a plein de gens, il y a Total qui paye l'essence, il y a la DGAC qui offre tout gratuitement, et beaucoup de gens, beaucoup de pilotes qui se sont engagés, plus de 600 pilotes qui sont inscrits pour pouvoir déplacer les gens, et aussi des gens qui prêtent des avions, parce que ce sont des avions entre 6 et 20 places, qui peuvent se déplacer et se poser assez rapidement. Quelquefois, on transporte simplement une personne, mais l'important, c'est que le flux se fasse très rapidement, et surtout en transversal. Voilà.
Quel est le bilan depuis le début de l'opération?
Alors, depuis le début, il y a à peu près 100 soignants qui ont été déjà transportés avec plus de 25 vols. Et ça augmente tous les jours. Voilà. C'est important de faire passer le plus possible d'abord que les gens aussi qui ont des avions et qui ont envie de les mettre à disposition, puissent le faire, mais surtout que les aides-soignants et toutes les personnels médicales puissent, et même les gens qui ont du matériel médical à transporter, évidemment pas 3 tonnes, mais s'informent et viennent sur le site.
Est-ce, ouais, qu'il y a des conditions particulières sanitaires, puisqu'on sait que les soignants sont touchés par la maladie? Est-ce que ça demande quelque chose de spécifique pour les avions ou pas du tout?
Ah ben il y a forcément tout un protocole qui est mis en place pour pas que les gens évidemment se contaminent. Évidemment, on va pas se retrouver dans un avion de 20 places avec 20 personnes collées côte à côte. Mais le système est très bien fait, c'est-à-dire que il y a au moins 4-5 soignants ou du matériel, enfin voilà, il y a un mix en fonction de la demande, et les gens s'organisent et envoient des avions, parce que je vous dis, en fait, il y a plus de 500 aérodromes partout en France, donc il y a toujours un avion qui est à distance, qui a une distance assez rapide, si vous voulez, pour pouvoir se poser à très peu de temps, d'ailleurs, d'un hôpital ou d'un lieu nécessaire pour le Covid, quoi.
Et vous avez...
Vous dites que c'est une... Pardon.
Allez-y, non, allez-y, Valérie. C'est compliqué. Non, allez-y.
Bah, vous me dites allez-y, si j'y vais. C'est pas évident, hein, José, à distance. Ça, on se chevauche et tout. Oui, je lisais que c'était une mobilisation exceptionnelle dans l'histoire de l'aviation.
Ah oui, plus de 600 pilotes et à peu près une dizaine d'appareils. Maintenant, je crois que c'est en train de monter en plus. Il y a plus de 25 vols. 10 opérateurs aériens, il y a les opérateurs d'avions, d'affaires, des petites compagnies, des propriétaires d'avions. Il y a une quarantaine maintenant d'avions, d'ailleurs, qui sont prêts à partir. Donc vraiment, ça a pris une ampleur absolument démente. Et la France est un des pays au monde qui a le plus d'aérodromes, donc plus de pilotes. Donc c'est assez formidable. Et c'est vrai que les distances sont assez complexes. Si vous voulez, vous êtes en plein Auvergne et vous devez vous rendre à Mulhouse. C'est très difficile de partir ou en train ou en voiture et de pouvoir arriver à temps. En plus, généralement, le personnel soignant est déjà épuisé et fatigué. Donc c'est vraiment une manière très rapide de pouvoir atteindre et de désengorger certains hôpitaux et d'emmener du matériel aussi qui doit je pense que cet engagement, je veux dire, citoyen est presque plus efficace que certains engagements
que celui de l'État.
Et vous, José Garcia, quelle est la plus grosse distance que vous avez fait en avion en tant que pilote? Vous avez déjà piloté des jets privés?
Je suis sur des avions très rapides. Oh, mais je peux faire des distances, de Paris à Gibraltar ou des choses comme ça, oui.
Carrément.
Bien sûr.
Et est-ce que vous pouvez nous prouver que vous êtes le vrai José Garcia et nous donner le téléphone d'Antoine Decaune?
Alors, ça serait moche parce que là, en train de confiner, ça serait vraiment, ça serait un coup de pied à un homme à terre. Ensuite, il pourra pas bouger, il pourra pas changer de téléphone. Vraiment, c'est très douloureux. C'est vrai que l'idée est quand même.
C'est tentant.
Sur l'idée, je suis pas contre. Sur le côté blague, franchement, vous êtes en train de me donner une très belle idée. C'est vrai que ça serait un coup au sultan, oui.
Ce serait un bon coup. Quand est-ce qu'on va vous revoir à la télévision?
Écoutez, si je me sors de cette
cinéma,
situation comme
au
vous
cinéma.
Tous, je ne sais pas, sans doute dans 10%, et puis après dans le film de Tariq Boudali qui s'appelle 30 jours max, vous voyez, tout est raisonné, soit 10%, soit 30 jours max, donc pour l'instant
très peu de capacité. Merci beaucoup José Garcia d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc cette opération Aviation sans frontières, donc appel aux soignants pour qu'ils s'inscrivent sur cette plateforme qui est mise à leur disposition sur le site ASF, donc Aviation sans frontières, pour pouvoir voyager d'une région à l'autre pour rejoindre un hôpital. Et puis évidemment, si vous voulez faire un don, c'est évidemment tout à fait possible.
aviationsansfrontières.org. Voilà.
Merci José Garcia, on était content de vous avoir. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve nous dans quelques instants pour parler du prix des fruits et légumes. Et puis Gilles Gansman, quelques petites idées de solidarité.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler du prix des fruits et légumes, 0826-300-300. Si vous aussi, vous voulez réagir, nous dire ce que vous avez constaté. On parlera également de cet État qui a beaucoup de mal à bouger, à agir en cette période tragique de Covid-19. Gilles, quelques infos de solidarité?
De solidarité ou d'information. On va aller en Dordogne, Valérie, où deux restaurants étoilés tentent la vente de paniers repas. Alors, c'est la Tour des Vents à Montbazillac et le Vieux Logis à Trémola qui proposent à partir d'aujourd'hui des paniers repas gastronomiques à 35 euros. Alors, ça se fait sur réservation. Et 10% des repas, d'ailleurs, les sommes sont versées aux soignants. Alors, il y a le chef Damien Faget de la Tour des Vents et Vincent Arnoul du Vieux Logis qui fabriquent donc ces paniers repas pour quelques euros, pour 35 euros, et donc vous les réservez et ils vous les livrent. Ça leur permet à ces deux restaurants de maintenir leur équipe en activité surtout. Et par exemple, ils ont 74 employés dans ces deux restaurants et ça permet aux restaurants étoilés de garder une partie de leur personnel. Et donc voilà, et je vous mettrai le téléphone si vous voulez manger un peu gastronomique pour 35 euros. Je vous mettrai le téléphone sur le site de Sud Radio sur Facebook. Et de la même façon, Alain Ducasse a lancé hier Alain Ducasse à la maison. Et donc, vous pouvez manger des repas du célèbre chef multi-étoilé. Et donc, tous ces restaurants, le Spoon, Allard, au Lyonnais, alors c'est sur Paris, peuvent vous livrer les pois chiches d'Oa qui côtoient le pâté de grand-mère ou l'épaule d'agneau au petit pois à la française. La commande s'effectue par mail à ducasse-paris.com.
Ça doit être un peu plus cher, non ?
J'ai pas été vérifié, mais on peut régler par PayPal. Il y a indiqué. Donc je pense que c'est un certain prix. Mais
effectivement, il y a un certain nombre de restaurants qui se mettent à la vente à emporter.
Absolument.
Voilà.
Et donc, ça permet aussi de varier ses repas et puis peut-être de s'offrir un petit restaurant en attendant qu'il s'ouvre. Toujours, on a donné les informations sur l'aviation pour nos amis soignants. Sachez que le Figaro offre 6 mois d'accès à tous les soignants gratuitement, à tous ces journaux, au Figaro Le Quotidien, mais aussi au Figaro Magazine, au Madame Figaro, à TV Magazine, sur toutes les plateformes numériques pour le Figaro. Il suffit pour cela que les soignants aillent sur le site www.lefigaro.fr/merci aux soignants avec un S à soignants, lefigaro.fr/merci aux soignants. Ils s'inscrivent et ils ont pendant 6 mois tous les journaux du groupe Figaro gratuitement. Et puis pour finir, le musée en herbe pour les enfants, c'est l'un des plus petits musées. Eh bien, ils ont décidé de mettre en place également toute une panoplie pour les enfants. Il y a un atlas, il y a également, alors pour les 3-5 ans, les 5-12 ans, il y a les jeux des 7 erreurs avec des tableaux célèbres. C'est extrêmement bien fait. J'ai moi-même joué au tableau des 7 erreurs. Et puis, vous pouvez également, il y a des épreuves avec une immense boussole, des épreuves pour circuler et se retrouver. Il y a plein de jeux. Il faut aller sur le site de Musée en Herbe. Voilà. Et puis, il y a des jeux sur des œuvres de Picasso ou de Miro. Je voulais vous indiquer également que tous les vendredis à 3h du matin, pour ceux qui sont insomniaques, vous pouvez retrouver des films. Alors, c'est des films de La La Land ou Dirty Dancing qui sont gratuits. La semaine dernière, il y avait eu Hunger Games, Dirty Dancing le 24 avril, La La Land le 1er mai et John Wick le 8 mai. Et c'est Motion Picture qui offre ces films. Ça s'appelle Night at the Movie. Et c'est pour passer, comme on sait que les gens font des nuits blanches, ils mettent à disposition des films.
C'est où ?
J'ai
pas compris où c'était.
Sur YouTube, c'est sur YouTube, c'est sur un site internet qui s'appelle Night Movie.
D'accord. Très bien.
Et sur YouTube, vous pouvez découvrir ces films gratuitement. Voilà, madame.
Merci beaucoup, Gilles. À demain. On est en ligne, nous, avec Grégory Carrette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir et vous êtes le co-auteur de cette enquête sur le prix des fruits et légumes, une enquête qu'on peut retrouver, je le dis, sur le site quechoisir.org. Il suffit de toute façon de taper Que Choisir fruits et légumes, on tombe directement sur cette enquête très intéressante. Alors, dites-nous ce qui a déjà motivé cette enquête. Vous aviez-vous remarqué qu'il y avait des hausses de prix en faisant vos courses?
Alors, d'abord, la première étape, on s'est intéressé aux produits de première nécessité et pas nécessairement aux fruits et légumes, un peu par fainéantise méthodologique. C'est très compliqué de suivre les prix des fruits et légumes. Et puis, on a constaté qu'il y avait beaucoup de changements déjà dans les paniers de première nécessité, dans les produits de première nécessité, avec des pénuries dans les rayons. Et ces pénuries créaient un phénomène d'inflation involontaire, c'est-à-dire que restaient en rayon des produits plus onéreux. Là, on était de l'ordre de 2,5%. Et quand on a annoncé ça, il y a beaucoup de consommateurs qui nous ont alertés, parce que c'est que l'UFC Que Choisir, c'est un énorme mouvement avec beaucoup d'associations dans toutes les villes, qui nous ont alertés en nous disant, mais vous savez, le pire, c'est les fruits et légumes. Et c'est vrai qu'on commençait à se dire, le fait d'avoir fermé les marchés dans beaucoup d'endroits, même si certains ont réouvert, a dû créer des tensions. Et on s'est focalisé seulement dans un deuxième temps sur les fruits et légumes, mais c'était vraiment à l'origine issu de témoignages de consommateurs qui nous alertaient là-dessus. Et on s'est penché sur le phénomène. Alors on a été obligé de parce que je sais que les professionnels de la grande distribution nous reprochent de comparer deux périodes qui ne sont pas les mêmes en termes de saison, mais on n'a pas le choix parce que c'était le pré-confinement et maintenant on est en avril, donc on est obligé de comparer. Je suis désolé, avril à mars, il n'y a pas d'autre solution.
Ouais. Et donc le constat que vous faites est qu'il y a une augmentation assez importante.
Assez élevée. Hein. Moi, je fais des études dans tous les domaines depuis très très longtemps. Des écarts de prix de plus 9% sur un mois, c'est inédit. Alors on l'a constaté sur des produits comme déjà les aspirateurs, les tondeuses à cheveux, mais là sur des produits alimentaires comme des fruits et légumes, c'est très très gênant. Et 9%, faut savoir que les fruits et légumes, c'est 15 à 20% du panier, mais dans les familles les plus modestes, c'est les paniers alimentaires, c'est vraiment une grande part de la consommation. Donc plus 10%, c'est très clairement difficile à supporter pour les ménages. Le risque, c'est de se tourner vers des produits avec un profil nutritionnel beaucoup moins intéressant, de renoncer à acheter des fruits et légumes, ce qui est vraiment pas à faire. Il ne s'agit pas de substituer au Covid le scorbut. Donc il faut toujours manger des fruits et légumes. En plus, on est dans une saison où c'est quand même agréable d'en manger. Cuisiner est un des rares plaisirs qui nous reste, donc c'est assez c'est assez embêtant. Plus 9%, je vous dis, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement élevé pour moi, quelque chose d'inédit dans ce domaine.
Dans ce domaine, une demande qui est plus forte, des coûts de production plus élevés, ça fait partie des explications aussi, c'est-à-dire que beaucoup de produits aujourd'hui sont des produits français et forcément ça a un coût.
Exactement. Il y a plusieurs facteurs, mais si on peut les résumer à les facteurs principaux. D'abord, une très forte réduction des importations. Il faut savoir que 50% des fruits et légumes qu'on consommait étaient des fruits et légumes importés. Peut-être avec un profil qualitatif un peu moins, mais en tout cas avec un attrait tarifaire certain. Ça participe de l'inflation. Ça a été substitué par des produits français. Et eux, les Français, les producteurs français, eux, font face à des augmentations en effet des coûts. Nette augmentation des coûts de transport, nous explique-t-il. Coût de main d'œuvre aussi, plus compliqué de recruter de la main d'œuvre et des coûts aussi. Alors ça, c'est un peu plus dommage, envolé du coût des emballages. Alors ce qui est dommage, c'est que vous l'avez remarqué, de plus en plus on emballe les fruits et légumes. Pas sûr que ce soit indispensable. Ça préserve pas du tout du Covid. Hein. Le Covid, il survit aussi bien sur un emballage que sur une peau de fruits et légumes. Et paradoxalement, vous savez que c'est les produits bio qui sont les plus emballés. Tout ça pour éviter la fraude. Hein. Mais on veut des produits sans pesticides, on veut pas forcément des produits avec un emballage. Et donc, d'ailleurs, c'est comme ça que les professionnels nous ont expliqué le différentiel qu'on a noté entre un panier conventionnel et un panier bio
qui est subi des hausses beaucoup plus importantes.
Voilà, et c'est lié à la tension sur le marché de l'emballage. Donc c'est quand même assez
c'est quand même totalement dingue, quoi. Complètement paradoxal, effectivement.
Alors la grande distribution nous explique qu'elle est en train de découvrir les vertus du local, c'est très bien. Sachez aussi, faut que les auditeurs le sachent, et puis ils le savent déjà, il y a une offre alternative qui existe déjà, il y a des circuits courts, il y a de plus en plus de magasins
qui sont moins chers, eux, ou pas?
Récemment, on ne les a pas enquêtés, mais on a fait une enquête il y a l'année dernière à l'UFC Que Choisir. On avait constaté qu'ils étaient tout à fait crédibles, notamment sur l'offre bio, c'est-à-dire qu'ils avaient des rayons mieux achalandés pour le bio et des prix moins chers que la grande distribution. Alors même qu'on pensait que pour les prix, la grande distribution était la meilleure. C'était pas du tout le cas sur les fruits et légumes. Donc j'ai pas de données extrêmement récentes, mais tout porte à croire que vu les hausses que la grande distribution a appliquées, les circuits courts restent de toute façon tout à fait compétitifs dans ce domaine-là.
Oui. Il y a beaucoup d'organisations de commerçants ou de producteurs qui sont organisés effectivement pour directement distribuer les fruits et légumes et parfois ça peut être plus intéressant effectivement, mais là on comprend. Et d'une manière générale, est-ce qu'il y a une hausse parce qu'il y a eu tout ce débat? C'est vrai que on remarque que le ticket quand on va au supermarché est beaucoup plus élevé. Alors c'est vrai qu'on a des habitudes d'achat différentes aussi, on achète beaucoup plus parce qu'on y va moins souvent. Sur le reste des produits, lui. Est-ce que vous avez enquêté ou pas ?
Oui. On a enquêté. Il y a des hausses, alors plus ou moins marquées, par exemple, dans le secteur de l'hygiène, il y a eu pas mal de.
Oui, alors vous avez évoqué les tondeuses à cheveux et les aspirateurs qui ont augmenté. Comment ça se fait ?
Alors, juste pour terminer sur la grande distrib, là par exemple sur les lingettes de maison ou les savons, là il y a des hausses de prix de l'ordre de 10 à 21%. Alors c'est pas qu'ils ont augmenté les prix, c'est que les produits qui sont en rayon aujourd'hui sont des produits plus que ce que vous aviez avant la période de confinement. Maintenant, l'autre secteur dont vous parliez, c'est effectivement les tondeuses à cheveux, les aspirateurs et également les imprimantes. Alors C'est les premiers secteurs de produits qu'on est allé investiguer. La raison, elle est simple, hein, c'est, vous savez que Choisir, on est connu pour nos tests de produits, donc on a beaucoup de tests sur notre site internet, et on a vu une augmentation du trafic sur ces produits-là. C'est-à-dire que les gens confinés se sont dit, on a besoin de s'équiper. Si vous avez des jeunes enfants, si vous n'avez pas une imprimante aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué pour suivre la scolarité. Très forte tension sur le marché des imprimantes, et qu'est-ce qu'on a constaté effectivement ? C'est une envolée des prix des imprimantes. Et là, pour le coup, on a bien vu des commerçants qui ont augmenté les prix des produits qu'ils avaient, eux, déjà en stock il y a un mois, deux mois, trois mois. Donc là, ils en ont vraiment... Oui. Là, c'est complètement un comportement opportuniste. C'est-à-dire que c'est le même produit qui est vendu plus cher. Ce qui est un tout petit peu différent.
Sans aucune raison. Pour le coup, il n'y a aucune explication.
Ah bah c'est complètement opportuniste.
C'est de l'opportunisme,
c'est la loi de l'offre et de la demande. En fait, il y a eu une forte augmentation de la demande. Il y a eu une diminution de l'offre aussi. Hein. Il y a des commerçants qui ont fermé un petit peu leur, qui ont limité le développement de leur offre en disant on va se focaliser un peu plus sur les produits de première nécessité. Alors la tondeuse à cheveux va peut-être devenir un produit de première nécessité parce que là on est en cinquième semaine de confinement. Mais ça n'était pas du tout à l'époque. Donc là c'est un comportement qui est vraiment complètement opportuniste, qui n'est pas illégal. Ils ont le droit de fixer les prix qu'ils veulent, juste aux consommateurs d'être vigilants.
D'être vigilants sur les fruits et légumes. Le conseil, c'est de continuer à en manger, peut-être de choisir. On a une auditrice, Brigitte, qui nous dit les circuits courts sont pas moins chers, et Catherine qui nous dit ça vaut le coup. Moi, je ne vais que dans les regroupements de producteurs, c'est moins cher de façon notoire. Je suis dans les Landes, donc je pense que ça doit aussi dépendre des régions. Ça doit dépendre de beaucoup de choses.
Ouais, c'est très 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 difficile. Réaliser des études de prix, les prix, l'étude des fruits et légumes dont on parle. Nous, on est en train d'analyser 4600 magasins. Vous voyez, ça correspond à des bases de données de 130 000 produits. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait logique qu'un consommateur individuellement puisse avoir une perception différente.
Un ressenti différent.
Là, nous, ce qu'on vous donne, ce sont des données macro. Il est possible que localement, il y ait des différences et qu'une grande surface soit moins chère qu'un magasin de producteurs ou qu'un primeur. Ça, c'est tout à fait logique et possible.
Mais à rappeler, donc 12% d'augmentation sur les produits bio entre la semaine du 2 au 7 mars et avant le confinement et celle du 6 avril. C'est quand même beaucoup, plus 23% pour le navet. On se demande pourquoi, parce que le navet n'est pas un produit.
On peut s'en passer.
Mais 25% pour la tomate grappe bio, ça fait beaucoup. Donc il y a d'autres types de tomates, j'ai vu en grande surface, qui étaient quand même moins chères. Et ben merci beaucoup Grégory Carré d'être intervenu ce matin. On renvoie donc sur le site de l'UFC Que Choisir, c'est quechoisir.org, où vos études sont publiées. On se retrouve dans un instant, là on va parler économie, mais de façon beaucoup plus large. Comment sortir du confinement, quelles conséquences avec cette dette colossale, et puis quelles conséquences sur l'État. On en parlera avec Christian Saint-Étienne dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous pour le 10h midi, je suis en ligne avec Christian Saint-Étienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai été interpellée par un de vos tweets, puisque je vous suis, je vous lis également dans le Figaro, et le 17 mars, vous avez publié une tribune, mais c'est surtout un tweet il y a quelques jours dans lequel vous écriviez « Il faudra restructurer l'État impuissant et cerbère qui n'anticipe rien, qui n'arrive pas à se procurer des masques quand le privé y parvient, l'État réquisitionne, interdire aux pharmacies d'en vendre et d'en acheter, un État qui punit pour exister, et puis vous dites il va falloir restructurer cet État assez rapidement. Qu'est-ce que la crise du Covid va avoir comme conséquence, selon vous, sur notre État ?
Alors d'abord, je pense qu'il est très important de rappeler que l'État n'existe pas en réalité. L'État, c'est un ensemble de règles institutionnelles et constitutionnelles, et pour ce qui est de ses ressources, c'est uniquement ce qu'il prélève sur la production, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de production, il n'y a pas de ressources pour l'État non plus. Donc quand on regarde la dépense publique, malheureusement tout le monde ou la plupart des gens le savent, nous avons l'État qui dépense le plus en Europe, avec 56 points de PIB. Alors le PIB, c'est la production annuelle, et l'État en France dépense 56% de la production annuelle, qu'il prélève en fait sur le secteur privé par les impôts et les cotisations sociales. Et la question centrale de l'action d'un État, c'est son efficacité. Quand on a le niveau de prélèvement le plus élevé, on s'attend à ce que, quand il y a une crise sanitaire, ben, il y ait des masques, il y ait des tests, il y ait des respirateurs dans les hôpitaux. Or, quand on démarre cette crise, la France, alors qu'elle dépense plus en pourcentage de la production sur la santé, elle n'a que 5000 lits de réanimation, alors que l'Allemagne, qui dépense 12 points de moins, c'est-à-dire que quand nous dépensons 56 points de PIB, l'Allemagne dépense 44 points de PIB, et nous commençons la crise avec 5000 lits de réanimation, et l'Allemagne avec 28 000 lits de réanimation. Par ailleurs, on confine, mais on sait que les stratégies des États efficaces, comme la Corée du Sud ou Taïwan, c'est de tester massivement. Au début, on teste pratiquement pas. Et même l'État prétend, c'est le pire, il faudra d'ailleurs qu'il y ait des conséquences juridiques à cela, l'État ment, puisqu'il nous dit à mi-février, les masques ne servent à rien, même encore à mi-mars, parce qu'en fait, il n'en a pas stocké. Donc voilà, on a un État qui est extrêmement inefficace et qui n'anticipe pas. Voilà,
qui n'anticipe pas. Mais est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il pourra y avoir des résultats? Enfin, après, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Vous dites également, l'État doit être restructuré massivement, la haute fonction publique doit être, la haute administration doit être divisée par deux. Et c'est vrai que le constat qu'on a tous fait, c'est que les entreprises du privé ont réussi à commander des masques, ont réussi à commander des tests, là où l'État n'y arrivait pas. Donc c'est un État qui est centralisé. Et qui est obèse pratiquement et qui n'arrive pas à bouger.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette crise débouche sur quelque chose de positif pour une réforme de l'État, ou est-ce que l'État peut se rendre compte, enfin l'État ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais qu'il y a eu quand même des ratés là-dessus?
Oui. Alors il y a deux aspects dans les questions que vous posez. Il y a effectivement les ratés, elles sont massives. On sait par exemple qu'il n'y a quasiment pas eu de commandes de masques avant de commandes massives et organisées par l'État de masques avant le 21 mars, c'est-à-dire après le début du confinement, alors que les commandes massives auraient dû intervenir au minimum à mi-février, avec un État qui anticipe, ça aurait dû intervenir il y a deux ans. Un an, on aurait dû avoir des réserves de masques. Vous savez que ce qui est insupportable, c'est qu'on a même détruit l'essentiel de nos réserves de masques entre 2013 et 2017. Ouais. Donc ceci devra être jugé aussi. Mais il y a eu des dysfonctionnements massifs. Et pourquoi entre mi-février et mi-mars, on ne commande pas de masques? C'est parce qu'on a des commissions qui se réunissent pour savoir quel type de masque. Et pendant au moins trois semaines, on s'échange des notes entre services et il n'y a pas de commande. Donc il y a un dysfonctionnement majeur, c'est le premier point. Le deuxième, c'est comment restructurer. Je pense qu'il va falloir restructurer en partant de la base. Alors il se trouve que nous avons quand même des éléments positifs qui peuvent servir à la restructuration. D'abord, il faut savoir que les 35 000 communes, puisqu'on n'est plus 36 000 communes, mais on est tombé à 35 000, appartiennent à 1250 intercommunalités. Je pense qu'il faut transformer les intercommunalités en communes métropolitaines. Donc, on garde les 35 000 communes, mais elles deviennent des subdivisions de ces communes métropolitaines. Et c'est au niveau des communes métropolitaines directement élues par le peuple qu'on doit avoir donc 1250 exécutifs locaux qui soient en charge de l'éducation, de la santé et des transports. C'est au niveau de ces exécutifs locaux qu'on devra stocker les masques, qu'on devra s'assurer qu'on a des capacités hospitalières qui nous permettent de faire face à des crises. Donc tout ce travail devra être fait à ce niveau-là. Je pense également, alors c'est pas seulement moi, il y a quelques dizaines de personnes qui travaillent sur la restructuration possible de l'État. On a pensé, alors c'est assez intéressant parce qu'au cours du temps, les choses bougent. Il y a 15 ou 20 ans, beaucoup de gens disaient il faut supprimer les départements. Aujourd'hui, on considère qu'il faut simplement en diviser le nombre par deux. Il faudrait 50 départements. 50 départements qui pourraient servir de fonction de coordination des 1250 communes métropolitaines. Et les régions, à ce moment-là, serviraient de capacité d'action stratégique de long terme en coordonnant donc les départements et les intercommunalités, ce qui suppose évidemment de restaurer une réforme qui avait été faite il y a 10 ans et qui consiste à ce que les conseillers départementaux et régionaux soient les mêmes et étant les mêmes, ils seront en responsabilité. Voilà, donc il faut une décentralisation massive. Et quant à l'État central, il faut reconstituer au niveau de l'État central une fonction d'État stratège qui soit capable d'anticiper les crises, de gérer le pays, d'investir dans les nouvelles technologies qui nous permettront de rebondir. Parce que là, et puis il faut surtout réindustrialiser notre pays. L'État a laissé le pays se désindustrialiser. Vous savez qu'au cours des 20 dernières années, nous sommes le pays qui s'est le plus désindustrialisé de tous les pays développés. Ouais. Et c'est le boulot de l'État stratège en lien avec toutes les entreprises. Évidemment, c'est pas l'État qui va produire, c'est l'État qui doit guider. Mais l'État doit donc guider et orienter les entreprises pour réindustrialiser le pays. Or, tout ce qui existe aujourd'hui, c'est l'inverse de tout ce que je viens de dire. Au lieu d'un État décentralisé avec des départements qui coordonnent 1250 exécutifs locaux, on a une accumulation de strates et d'incompétences absolument massives. Pardon. Au niveau de la haute fonction publique, on a donc ces jeux que je décrivais tout à l'heure pour la commande des masques, où de direction à direction, on s'envoie des notes, mais personne ne prend de décision. Donc là, dernier point, il faut le dire, nous avons un encadrement de fonctionnaires qui est absolument massif. On a 5,5 millions de fonctionnaires. Il va falloir dégraisser massivement à hauteur d'un demi-million. Et l'État,
mais ça, il va falloir du courage politique pour le faire.
Voilà, il faudra du courage politique. Ouais. Mais justement, les Français ont vu, c'était une question que vous posiez, est-ce qu'au fond le Covid peut être une chance? Les Français ont vu avec leurs yeux et avec le confinement, parce que si le confinement dure 2 mois, c'est parce que l'État est impuissant, c'est parce qu'il n'a pas pu stocker des masques, des tests et des respirateurs. C'est pour ça qu'il nous boucle. Il nous boucle parce qu'il est impuissant. Et donc,
c'est la pénurie qui fait qu'on est obligé d'être là. J'avais une question. Alors le challenge va être difficile en moins d'une minute. C'est Éric Revel qui nous écoute et qui pose une question sur avec les déficits énormes en Europe, est-ce que c'est la fin de l'euro ? Vous avez 30 secondes pour répondre, parce qu'on voit aussi le rôle de l'Europe.
Soit l'État français, qui est en fait un État clé dans cette construction monétaire, puisque la France est au fond l'articulation entre le Nord et le Sud. Si l'État français se réforme, si nous réduisons massivement nos déficits et surtout nous retrouvons de l'efficacité dans l'éducation, la sécurité et la stratégie, oui, je pense que l'euro peut perdurer. Mais si l'État français, la France, de manière générale, ne se réforme pas, la question...
Ah, on vous entend plus, Christian Saint-Etienne.
Je disais que la question de la pérennité de la zone euro, si la France ne se réforme pas, est tout à fait posée.
Oui, et va se poser. Je rappelais juste en conclusion hier que le laboratoire Mérieux, qui est un laboratoire français, a une autorisation de fabriquer des tests qui sont vendus aux États-Unis, mais il n'y a toujours pas l'accord. Et là, c'est un accord européen qui doit tomber, qui n'est toujours pas tombé pour et donc Mérieux attend cette autorisation pour pouvoir vendre des tests en France, ce qui est complètement aberrant. Voilà. Ben merci beaucoup Christian Saint-Étienne d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de vous réentendre. Beaucoup de choses à dire évidemment sur cette sortie du Covid et des conséquences économiques qui vont être, je pense, assez complexes. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.